entrons comme toutes les fins d'après-midi dans le temps du débat entre 18h20 et 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, les ONG de sauvetage des migrants en Méditerranée ont-elles une ou plusieurs politiques ? Ces derniers mois, en effet, et plus exactement ces dernières semaines, ont été marquées par l'épopée de plusieurs navires venant secourir des migrants en pleine Méditerranée, qu'ils s'appellent Sea-Watch 3, piloté par la capitaine Carola Rackete, ou encore Open Arms, ou enfin Ocean Viking. Ces bateaux ont recueilli des centaines de migrants et ont tenté ensuite de convaincre les pays limitrophes de les accueillir sur leur sol. Pour autant, les dirigeants politiques européens ont toujours soupçonné et même parfois accusé publiquement ces associations de vouloir imposer à l'Europe l'accueil de ces migrants. Y a-t-il une ou plusieurs politiques de ces associations? Et si oui, quelles sont-elles? Nous allons en débattre avec trois invités ce soir. Un historien de la Méditerranée et de la souveraineté maritime en Méditerranée, Guillaume Calafat, et deux acteurs de terrain, le président d'SOS Méditerranée, François Thomas, et Ariane Masson, qui était mécanicienne sur le Sea-Watch 3, le bateau de Carola Rackete.
Face aux voiliers chargés de naufragés de cette association humanitaire, les gardes-côtes italiens annoncent la couleur.
Je veux vous informer que vous n'êtes pas autorisé à pénétrer dans les eaux territoriales italiennes. Le non-respect de cette disposition peut être considéré comme une violation administrative pénalement sanctionnée.
Or, le capitaine du navire de secours passe outre.
Bien reçu, mais nous sommes en situation d'urgence. Ça nous oblige à accoster au port le plus proche. Nous n'avons plus ni eau, ni nourriture à bord.
Bonjour Guillaume Calafat.
Bonjour.
Bonjour à vous, François Thomas.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Ariane Masson. C'est une situation, celle qu'on a entendue, que vous avez peut-être déjà vécue, ces dialogues entre garde-côtes et gens qui sont sur un bateau. Vous étiez mécanicienne effectivement sur le Sea-Watch 3 de Carola Rackete, en train de dialoguer à distance sur la possibilité ou non de débarquer des gens, que ça soit dans une île ou sur les côtes italiennes ou à Malte.
En effet, oui.
Et ça fait quel effet justement d'être sur ces bateaux et de devoir négocier à distance comme cela ?
C'est assez perturbant, c'est être face à une absurdité où d'un côté il y a des lois qui ont changé et d'un côté des humains qui sont en situation de souffrance. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces associations de sauvetage, ces navires, opèrent depuis plus de 4 ans. Parfois encore plus. Tout s'est très bien passé pendant plusieurs années. Nous avons travaillé main dans la main avec les centres de sauvetage et de recherche, avec les États, avec les gardes-côtes, notamment les gardes-côtes italiens. Depuis quelques mois, il y a des problèmes à chaque fois avec les navires, avec le refus d'autorisation d'accéder au port. Les lois n'ont pas changé, nos façons de faire n'ont pas changé, les politiques ont changé et du coup, les situations deviennent insolvable.
Alors justement, on connaît les politiques, on pense connaître en tout cas les politiques migratoires des États, François Thomas, et nous nous sommes posé la question collectivement en préparant cette émission de savoir s'il y avait une ou plusieurs politiques et comment s'établissaient-elles justement ces politiques des associations de sauvetage. Vous représentez ici SOS Méditerranée, l'Ocean Viking était il y a encore peu de temps dans Méditerranée et va bientôt repartir, je pense, depuis son port d'attache qui est, je crois, Marseille, c'est ça ?
Tout à fait.
Et l'Ocean Viking, c'est SOS Méditerranée, donc, et Médecins Sans Frontières.
Voilà, nous avons un partenariat avec Médecins Sans Frontières. L'Ocean Viking est actuellement à Marseille. Il va repartir dès que possible pour assurer sa mission de sauvetage. SOS Méditerranée est une association européenne, citoyenne. Tout comme Sea-Watch, comme l'a dit Ariane, la base, c'est le sauvetage. Nous avons d'autres politiques, bien sûr. C'est sauver, d'abord, sauver des vies humaines, protéger et témoigner. Nous respectons strictement le droit. Le droit maritime est très clair. Nous devons absolument, en tant que marin, c'est l'assistance à personne en danger, sauver des personnes lorsqu'elles sont en détresse.
Vous êtes vous-même un ancien officier de la marine marchande, donc vous avez pratiqué avant de présider cette association ce métier depuis très longtemps, et vous avez eu à connaître évidemment d'autres crises de ce type. On se souvient peut-être dans les années 1970 de ce qui se passait en mer de Chine avec les boat people. Tout cela, vous l'avez vécu en tant que capitaine de la marine marchande, et vous le vivez d'une manière différente aujourd'hui en Méditerranée avec ce poste de président de SOS Méditerranée France.
Tout à fait. C'est absolument affligeant, cette évolution. Comme l'a dit Ariane, il y a quelques années, nous étions félicités pour notre action. Et nous avons reçu des prix. Aujourd'hui, nous sommes empêchés de faire notre travail. Tout simplement du sauvetage. Il y a un article très important par rapport aussi à ce qui a été mis en place par certains États européens. Il y a un article très important de la Convention internationale du sauvetage en mer, la Convention SOLAS, qui dit clairement qu'aucune personne ne doit entraver le capitaine ou l'empêcher de prendre ou d'exécuter des ordres, des décisions pour le sauvetage de vie humaine en mer. En l'occurrence, le capitaine est tout seul pour prendre ses décisions, et s'il y a des personnes en danger, il doit y aller absolument. Aujourd'hui, les conventions maritimes internationales sont relativement simples. Le sauvetage est obligatoire. On doit débarquer les personnes dans un lieu sûr le plus rapidement possible. Et c'est là que ça pêche. Les États européens n'ont pas mis en place les structures, le système qui permet de débarquer rapidement.
Et justement, une des questions, Ariane Masson, c'est que s'est-il passé ? Puisque vous nous avez écrit, comme à l'instant même François Thomas, une situation qui avait changé. Vous êtes vous-même montée comme mécanicienne sur ces bateaux. Vous êtes venue aussi, vous, de la marine marchande, et vous avez découvert, effectivement, cette fonction de sauvetage particulière, donc que vous ne connaissiez peut-être pas au tout début de votre propre carrière de mécanicienne en mer. Justement, qu'est-ce qui a changé entre ces 3-4 dernières années, en particulier depuis le début de cette crise des migrants en Méditerranée ?
Je pense que c'est les politiques européennes qui ont changé. C'est en mars 2019, c'était la fin de l'opération Sophia, donc la fin de l'opération de sauvetage gérée par les États. Et les États n'ont ensuite rien relancé. Ça a été à la société civile de remplir ce vide. Et donc du coup, de faire le travail des États à leur place, le travail qui est le sauvetage en mer, et du coup d'empêcher la mort de personnes. On pourrait théoriser autant qu'on voudra. On arrive à la fin à cette question qui est exacte, qui est toute simple. Soit on laisse les gens mourir, soit on les sauve.
Quand vous entendez cela, Guillaume Calafat, on pourrait se demander pourquoi un historien du XVIIe et du XVIIIe siècle est avec nous aujourd'hui autour de cette table pour parler d'un débat très contemporain, ce sauvetage des migrants en pleine Méditerranée. Cela vous fait penser à votre propre travail. Vous êtes auteur d'un livre tout à fait passionnant qui s'intitule « Une mer jalousée, contribution à l'histoire de la souveraineté en Méditerranée au XVIIe siècle ». Vous vous intéressez justement à la façon dont les États riverains, donc les États que nous connaissons et dont nous parlons, l'Italie, Malte, l'Espagne, la couronne de France, etc., ont réfléchi à ce qu'il fallait faire, jusqu'où il fallait aller, ce qu'était une mer libre, et donc quel était le droit qu'on instaurait sur cette mer Méditerranée. On parle souvent du droit maritime comme étant l'apanage des océans, et en particulier l'océan Atlantique. Mais vous êtes intéressé à cette Méditerranée en vous disant, ben voilà, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui encore, on pense à ce droit tel qu'il s'est établi entre le XVIIe et XVIIIe siècle.
Alors, c'est vrai que je suis un historien de l'époque moderne, et l'analogie entre la situation contemporaine et le XVIIe ou le XVIIIe siècle peut sembler difficile à mener. Il y a des discontinuités très fortes, l'impérialisme européen, la colonisation, des inégalités de développement qui sont autant de facteurs qui expliquent la situation contemporaine. C'est vrai qu'en revanche, du point de vue de la localisation, la Méditerranée, mais aussi du point de vue de cette question de la territorialisation des mers, le XVIIe et le XVIIIe siècle sont tout à fait intéressants, parce que la Méditerranée, cette cette mer entre les terres, a très tôt posé des questions sur, par exemple, la liberté de navigation, la mobilité possible pour les navires, ou au contraire, des formes de souveraineté, de revendication d'espace maritime qui donnaient en fait la charge aux États, justement, de surveiller ce qui se passait près de leurs côtes, avec des distances qui pouvaient varier, qui ont été extrêmement débattues au XVIIe et XVIIIe siècle.
Et évidemment, dans votre travail, vous parlez de cette notion de mare clausum, une mer fermée, une mer mare liberum, une mer ouverte, un port franc, toute la question de... Et vous dites une phrase formidable qui est dit « La Méditerranée est une mer de papier et de procédures ». Et on le voit bien aujourd'hui que la Méditerranée est une mer de papier et de procédures, des procédures qui font qu'on n'en est pas forcément d'accord quand on est une association de sauvetage, ou Matteo Salvini, par exemple.
Par exemple, évidemment. Alors, c'est vrai que les dispositifs aujourd'hui technologiques pour tracer les migrants, enfin, je parle sous votre contrôle, à François Thomas et Ariane Masson, sont beaucoup plus forts, que beaucoup plus sophistiqués que ce que nous avions à l'époque moderne. En revanche, c'est vrai que l'époque moderne voit se mettre en place des contrôles de mobilité, des passeports, des procédures sanitaires qui peu à peu tracent des frontières en mer, ou commencent à tracer la possibilité de dire le droit sur des espaces maritimes. Et je crois que ce qui est en train de se produire en Méditerranée aujourd'hui est précisément une question du même type.
Et vous insistez sur le fait que à ce moment-là, au XVIIe siècle, eh bien, s'instaure une Méditerranée qui est morcelée en micro-mer, aux limites instables et aux tracés précaires. Et on peut dire qu'effectivement, un des problèmes des sauvetages en Méditerranée, c'est justement ces micro-mers. Où a-t-on le droit d'aller? A-t-on le droit d'aller dans les eaux territoriales libyennes ou pas? Jusqu'où s'approcher des côtes de Lampedusa? Jusqu'où aller quand on s'approche de Malte? Comment rejoindre un port en Espagne, etc., etc.
Oui, avec toute l'ambiguïté que souveraineté des mers signifie, parce que souveraineté peut être aussi la protection. Et vous l'avez dit, en fait, le droit maritime enjoint aussi les États côtiers à protéger les navires en détresse et à protéger les personnes menacées de naufrage et de mort. Et pour ça, je vais citer une ordonnance de 1681, extrêmement fameuse, l'ordonnance de la marine, qui dit « Enjoignons à nos sujets de faire tout devoir pour secourir les personnes qu'ils verront dans le danger du naufrage ». C'est une ordonnance de 1681 qui, très tôt, donne la charge aux riverains de secourir la personne dans l'état de détresse. Alors, bien évidemment, je pourrais aussi citer des textes qui vont dans l'autre sens, une souveraineté exclusive qui repousse, qui chasse notamment le pirate, le brigand des mers, etc. Mais on voit là des questions qui se mettent en place et qui, de fait, commencent à poser aussi des questions qui sont beaucoup plus globales, qui sont celles des droits de l'homme et des droits humains.
Et donc, on y reviendra avec vous dans un instant, mais justement, puisque vous évoquez cette Italie dont vous êtes un des très grands spécialistes, votre port d'attache, pourrait-on dire, est le port de Livourne, le grand port commercial de la côte orientale de l'Italie. Eh bien, écoutons Matteo Salvini, c'était le 6 août dernier.
Je ne vais pas autoriser n'importe quoi. Pour moi, la loi et les frontières d'un pays, ça compte, et ça doit être respecté. S'il le faut, on conduira ces migrants en bus directement à l'ambassade d'Allemagne.
Alors voilà, donc le conflit interne, pourrait-on dire, dans l'Europe, entre des dirigeants européens qui se rejettent les migrants eux-mêmes. François Thomas, on a demandé tout à l'heure à Ariane Masson comment avait évolué justement ce droit maritime et le fait justement d'avoir à son bord des migrants. Vous l'avez perçu comment, cette évolution récente, justement ces 6 derniers mois qui ont rendu plus difficile votre tâche avec SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières?
Écoutez, c'est absolument insupportable. Ces barrières qui sont mises pour effectuer notre travail de sauvetage, tout simplement. L'Europe doit bouger, évidemment, parce que nous faisons des sauvetages, nous sommes confrontés à de la détresse humaine, à des personnes qui ont vécu des choses absolument abominables en Libye, torture, viol, qui ont passé quelquefois plus de 3 jours en mer sur des embarcations pneumatiques, qui ont risqué leur vie, qui sont déjà vraiment anxieuses. Et donc, on attend. On attend que des États européens, que l'Europe prenne une décision pour vouloir bien s'en occuper. Voilà.
Et il y a une nouvelle qui est tombée, je crois c'était hier ou aujourd'hui, qui ne va pas faciliter votre tâche avec SOS Méditerranée, puisque le gouvernement italien, et plus exactement l'aviation civile italienne, a décidé d'empêcher le départ des hélicoptères de plusieurs associations qui vous aidaient. C'était des associations qui s'appelaient Moonbird en particulier, qui vous servaient à repérer en mer des naufragés et qui vous permettaient d'aller avec votre bateau au plus près de ces naufragés pour les sauver. Et le gouvernement italien, l'aviation civile italienne, vient d'interdire ce décollage de ces Moonbird, de ces hélicoptères Moonbird, et donc va vous rendre la tâche plus difficile encore, François Thomas.
C'est encore un acte absolument déplorable. Le sauvetage, nous aurons des moyens inférieurs pour détecter les personnes en détresse, mais nos navires sont quand même très bien équipés. Nous sommes dans des zones où potentiellement des personnes sont en détresse, donc nous allons continuer à patrouiller sans relâche pour tenter qu'il y ait moins de morts, parce que la problématique, elle est là. Il y a un drame absolument en Méditerranée centrale.
Ariane Masson, on sait que cette Méditerranée centrale est l'endroit le principal aujourd'hui de ces questions-là. Alors si on vient à cette question que nous posons dans notre émission d'aujourd'hui, à savoir quelles sont les politiques qui sont mises en œuvre, est-ce qu'il est facile de déterminer, par exemple, la politique qui est mise en œuvre dans le cadre de l'association dans laquelle vous travaillez, qui est donc avec ce bateau qui s'appelle le Sea-Watch 3, est-ce qu'il est simple de dire, voilà, on a envie de faire comme ça. On sait que Carola Rackete a été arrêtée et vous ne voulez pas parler de son cas parce qu'elle est pour l'instant sous une inculpation de la part de la justice italienne. A été arrêtée pour avoir forcé justement l'entrée dans les eaux territoriales italiennes. Est-ce que il y a une politique derrière votre travail? Est-ce qu'il faut forcer? Est-ce qu'il faut tourner en rond en attendant de convaincre des opinions publiques? Est-ce qu'il y a une politique derrière votre association, par exemple, Ariane Masson? Est-ce que vous pouvez nous la décrire, s'il y en a une?
Ce qu'il faut bien voir, c'est que avant d'avoir une politique quelconque, je pense que, comme SOS Méditerranée, comme tous les autres bateaux en mer, la seule chose qui nous importe vraiment, c'est le fait qu'il y ait des gens qui arrêtent de mourir en mer, des gens qui arrêtent en 2019 de mourir aux portes de l'Europe dans des conditions où ils devraient être sauvés. Ils devraient être sauvés, c'est la loi qui impose ça, et c'est aussi notre humanité à nous qui nous fera nous poser la question dans quelques générations, peut-être plus tôt qu'on le croit, quel a été notre rôle. Et avant de parler de politique, c'est pas une politique, c'est vraiment...
Alors, si on ne parle pas de politique, parlons de stratégie. Il y a plusieurs moyens peut-être de convaincre les pays européens. Alerter les opinions publiques, interpeller les dirigeants, essayer justement soit de rentrer dans des eaux territoriales pour pouvoir justement forcer une décision. Enfin, il y a plusieurs possibilités, plusieurs tactiques ou stratégies à mettre en œuvre.
Mais je vous arrête sur le côté de forcer quelque chose. C'est vraiment des situations où nous respectons la loi scrupuleusement. Nous arrivons face à un sauvetage qui est donc une obligation maritime. Et ensuite, nous nous retrouvons avec des personnes à bord qu'il faut débarquer, car le sauvetage n'est pas terminé tant que les personnes ne sont pas débarquées dans un port sûr. À chaque fois qu'un navire est rentré sans autorisation dans des eaux territoriales, c'était parce que la situation à bord ne le permettait plus d'attendre. C'est dans l'extrait que vous avez passé en début d'émission. Le voilier était rentré parce qu'il n'avait plus de nourriture, plus d'eau à bord. Dans le cas du navire où j'étais, nous sommes rentrés à bord parce que nous sommes rentrés dans des eaux parce que nous avions peur que des personnes se blessent, que des personnes sautent à l'eau. Et c'est pas une affabulation de notre part, c'est quelque chose qui est arrivé aussi sur un bateau récemment, qui est arrivé au mois de janvier aussi sur notre navire. Nous sommes dans une situation où nous ne pouvons plus attendre. Et là où c'est horrible, c'est que je vous suis en train de vous donner des prétextes pour lesquels nous sommes rentrés port, alors qu'en fait, juste appliquer la loi, je dois vous dire que des personnes souffrent pour que leurs droits humains les plus élémentaires soient respectés. C'est une absurdité sans nom.
François Thomas.
Oui, tout à fait. On oublie, on parle de statistiques, on est en train de se défendre, alors que le droit humanitaire, tout simplement, est là. Au XIXe siècle, un des officiers de marine qui avait participé à l'abandon des naufragés sur l'île de Tromelin,
a mis beaucoup de temps. Alors, il faut rappeler cet épisode terrible, effectivement, où on abandonne en particulier des esclaves sur l'île de Tromelin.
11 ans après, il est arrivé à convaincre le ministre de la Marine en lui écrivant, il commençait sa lettre, « L'humanité m'engage à vous faire part ». Oui. On pourrait écrire le même début de lettre aux États européens aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui fait que lorsque vous discutez avec des dirigeants, j'imagine que vous avez des discussions avec des dirigeants européens, ils sont rétifs à une argumentation aussi simple, effectivement, le droit de la mer nous dit qu'il faut sauver des gens qui sont en danger de mort.
Il y a quand même des évolutions positives. Il y a eu cette réunion au mois de juillet à Paris. Il y a une réunion qui est prévue
à La Valette.
À La Valette, début septembre.
À Malte.
Voilà, exactement. Il y a ce qu'on attend, c'est qu'il y ait un système européen prévisible, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'est pas à attendre pour débarquer ces rescapés, coordonné et fiable. Voilà, c'est tout simplement ce système qui doit être mis en place en Europe. Aujourd'hui, il y a des signes positifs. La France, l'Allemagne sont des pays moteurs pour trouver un accord. Mais il se trouve qu'on l'a vu avec l'Ocean Viking il y a quelques jours. Ce système n'est pas encore en place. Donc c'est absolument intolérable. Il y a énormément de souffrance à bord. Et je pense que beaucoup, beaucoup de personnes qui nous écoutent ne peuvent pas imaginer la souffrance qu'il y a sur le pont d'un navire avec toutes ces personnes qui attendent d'être débarquées.
Même si, quand vous armez vos navires maintenant, vous savez, comme le Ocean Viking justement, vous savez ce qui peut vous attendre, vous savez que vous pouvez avoir à attendre longtemps et donc vous les armez de telle manière qu'il y ait des moyens pour pouvoir garder les gens un peu plus longtemps sur le bateau alors qu'auparavant vous pouviez peut-être les débarquer plus rapidement. C'est l'armement même de l'Ocean Viking est plus sophistiqué, pourrait-on dire, que celui de l'Aquarius par exemple.
Il y a certainement du retour d'expérience avec Médecins sans frontières et SOS Méditerranée. Les équipes ont beaucoup, beaucoup d'expérience aujourd'hui. Encore une fois, le droit est là. On doit les débarquer le plus rapidement possible. On ne doit pas les faire attendre. Il est vrai qu'il y a beaucoup de formations. Nos sauveteurs sont excessivement expérimentés. Ils font beaucoup d'entraînement. Ils étaient présents au Congrès international du sauvetage en mer à Vancouver au mois de juin. Mais nous sommes là parce qu'il y a une situation intolérable en Méditerranée. Il ne faut pas les faire attendre, voilà.
Et dans ces congrès, dans ces discussions que vous pouvez avoir entre vous, justement, une fois que vous avez vécu cette situation traumatique, Ariane Masson, vous engagez une réflexion sur la façon dont vous pouvez supporter collectivement ces changements de politique, ces changements de bord, pourrait-on dire, d'une politique qui était plus tolérante et qui l'est devenue moins et qui pourrait peut-être le redevenir, Ariane Masson. Est-ce que vous imaginez justement de devoir vous cadrer face à des politiques d'accueil qui sont très différentes et qui ne correspondent pas à votre engagement? Est-ce que vous imaginez justement devoir à chaque fois vous placez face à une politique qui est mouvante, qui n'est jamais la même des pays européens qui parfois accueillent, parfois n'accueillent pas et changent de pied au fur et à mesure que les mois se passent, c'est-à-dire d'avoir à adapter votre attitude vis-à-vis de ces changements.
Je pense qu'on adapte de toute façon notre attitude vu que, encore une fois, on va respecter les lois maritimes, les lois des États, les lois des pays, tout en ayant cette barrière qui est évidente, qui ne devrait même pas avoir être donnée, qui est qu'on ne va pas laisser des gens mourir. Et vous parliez de confort matériel des navires. C'est vrai qu'on peut faire de notre mieux pour offrir à ces personnes-là le meilleur confort possible. Il faut aussi parler du confort psychologique. Nous savons des personnes qui fuient une situation de mort, de torture. On entend des histoires absolument atroces. À bord, on a des fois des enfants très jeunes qui voyagent seuls et qui ont traversé quelque chose d'horrible. Et la seule réponse qu'on peut leur donner, c'est « Mais désolé, vous êtes coincé sur un morceau de métal de 50 mètres de long et on n'a pas la moindre idée de ce qu'on va pouvoir vous offrir. Nous avons eu des évacuations médicales à bord et nous avons dû répondre à cette question dans quel état de délabrement physique je dois être pour que mes droits humains les plus élémentaires soient respectés. »
Je souhaite être très clair. 1. Mon propos sur le rôle des ONG pour sauver des vies ne souffre...
On the journey of the seas, 200 passengers died. They collapsed to the sea. A boat was carrying 90 passengers. Only 13 were rescued, and the rest died. Today we are alive. The sea is not a place to pass by. The sea is not a road. Oh, but today we are alive. It is risky in life not to take a risk, because life itself is a risk.
France Culture, le temps du débat de 18h44, un débat que nous menons aujourd'hui autour de la question des politiques de sauvetage des associations en Méditerranée. Nous sommes en compagnie de François Thomas, mais également d'Ariane Masson et de Guillaume Calafat. Quand vous écoutez ces acteurs de terrain, vous qui êtes un chercheur, historien plongé dans les archives du XVIIe et du XVIIIe siècle, qu'est-ce que cela vous dit, Guillaume Calafat, sur justement les évolutions ou au contraire les comparaisons que vous pouvez faire par rapport à ces droits de la mer, ce droit de la mer tel qu'il s'est instauré dans la période que vous connaissez, c'est-à-dire la période moderne en Méditerranée?
C'est vrai que la conjoncture, l'urgence et la détresse suspendent en partie le jugement historien sur ce qu'il faut faire actuellement. En revanche, ce qui me frappe, et ça c'est peut-être une plus longue durée, c'est à quel point les mêmes lieux, en l'occurrence la Méditerranée, le canal de Sicile,
Malte, Lampedusa,
etc., sont d'excellents révélateurs de l'état de la souveraineté, de l'état des politiques et de l'état de l'humanité. Parce que ces différents aspects ressortent très clairement des situations décrites ici. C'est-à-dire que la situation du sauvetage est à la fois une épreuve pour les États pour revendiquer leur souveraineté, une épreuve pour les municipalités aussi. Il y a d'autres échelons, pas uniquement celui de l'État. Par exemple, des municipalités sont beaucoup plus hospitalières que des États. Des régions le sont beaucoup plus parfois que des États. Donc, quel sera le bon échelon du sauvetage? Ça, c'est une question aussi qu'on pourrait poser si le droit était amené à changer, ou si, en l'occurrence, les États échouaient à faire face à cette situation d'urgence, ce qui est en partie le cas de certains États qui, pour des raisons iniques et politiques, décident de tourner le dos au droit.
Oui, une des questions, c'est que vous êtes accusé souvent, c'est les associations, et c'est encore le cas de beaucoup d'associations encore aujourd'hui, par en particulier, on le cite toujours, mais c'est vrai que c'est Matteo Salvini, ou ça peut être aussi à une certaine période, en avril dernier, notre ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, de mener une politique. Donc vous êtes accusé de mener des politiques qui sont parfois, dit Matteo Salvini, des batailles politiques sur le dos des migrants contre le pays qui est l'Italie, par exemple. Ça doit être difficile de devoir se présenter comme étant simplement une association de sauvetage, une association humanitaire, et de ne pas avoir justement de politique hostile vis-à-vis des pays riverains où on veut voir débarquer les gens que vous avez sauvés en mer, François Thomas.
Si sauver des vies, faire du sauvetage en mer, c'est de la politique. Nous faisons de la politique. Après,
on sait très bien que la question humanitaire a toujours été une question politique. C'est normal. Oui. Si Médecins sans frontières s'est créé dans les années 70, c'était parce que on ne pouvait pas, avec d'autres grandes organisations comme la Croix-Rouge, accéder à certains endroits, par exemple.
Tout à fait. C'est pour ça qu'il est très important pour nous de respecter le droit, strictement le droit maritime. Toutes les statistiques, et ces statistiques, encore une fois, ce sont des vies humaines, prouvent que lorsque l'opération Mare Nostrum s'est arrêtée en 2015, les traversées de la Méditerranée ont continué, le drame des noyés a continué. Il y a une criminalisation des ONG aujourd'hui, c'est clair, il y en a moins de navires, il y en a beaucoup qui sont bloqués. Le taux de mortalité en Méditerranée continue à augmenter, donc il est clair que c'est pas ces nouvelles lois, c'est tous ces barricades qui sont mises, qui vont empêcher ce drame humain.
Est-ce qu'il y a une coordination des associations en Méditerranée? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a le Mare Jonio qui a été affrété par le collectif méditerranéen, qui a apporté secours ce matin à une centaine de migrants. Il y a le bateau Eleonore sous pavillon allemand qui transportait une centaine de migrants à son bord que Matteo Salvini a interdit d'entrer sur les eaux territoriales, dans les eaux territoriale italienne. Donc, on a l'impression qu'il y a presque un désordre de courage, comme on disait pour la résistance, comme disait André Malraux, c'est-à-dire des gens qui partent un peu partout. Est-ce qu'il y a une coordination? Est-ce que vous discutez entre vous? Est-ce que vous coordonnez vos forces pour pouvoir vous dire, on va aller plutôt dans tel endroit ou dans tel endroit? Est-ce qu'il y a une organisation de ce type-là, en l'occurrence, François Thomas?
La coordination, normalement, appartient au pays dans lequel le sauvetage se fait, qui a la responsabilité de la zone de sauvetage, en l'occurrence la Libye. Donc, ils n'ont aucun système de coordination, ils ne répondent pas toujours à nos appels. Il y a certainement des contacts entre les différents navires des ONG pour pas évidemment être tous au même endroit et se coordonner. On a le même objectif, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est sauver des vies humaines en mer. Donc la coordination se fait en mer. Et malheureusement, l'État libyen, le centre de coordination libyen n'assure pas cette coordination.
Ariane Masson, est-ce que vous avez discuté avec d'autres associations pour vous dire, voilà, on est dans la même zone, vous allez vous occuper de tel endroit ou de tel endroit, ou comment ça se passe effectivement? Parce qu'on ne sait pas très bien comment se passe un sauvetage en Méditerranée, et donc comment on va aller porter secours à tel ou tel, à quelques mille marins qui se trouvent tout proche de votre propre bateau, par exemple.
Je crois qu'à une époque, c'était un peu plus simple de se coordonner entre tous les navires, étant donné que tous les navires avaient la possibilité d'être en mer tout le temps. Mmh. Là, avec les répercussions juridiques qu'il y a après chaque sauvetage ou presque, il est un peu compliqué de savoir quand est-ce que chaque navire va être capable de reprendre la mer et donc d'avoir un peu une vision, ne serait-ce qu'à moyen terme.
Vous allez bientôt reprendre la mer, théoriquement, dans 3 semaines, si on libère le bateau donc sur lequel vous voulez monter, qui est pour l'instant amarré en Sicile et qui n'a pas été encore libéré par le gouvernement, enfin par les autorités portuaires en Sicile, c'est cela en l'occurrence, Ariane Masson?
Les autorités juridiques, c'est toujours une saisie...
Conservatoire?
Conservatoire.
Je sais pas. Non, je pose la question.
J'ai les termes italiens, mais pas français.
Voilà. Et donc, c'est une saisie du bateau momentanément. Il faut ensuite le libérer pour pouvoir repartir.
Exactement. Mais en attendant, il y a un équipage dessus en permanence pour être capable de reprendre la mer dès que la saisie sera levée.
Et pour vous, l'Océan Viking, qu'est-ce qu'il en est justement? Vous avez pu rentrer tranquillement dans le port de Marseille et repartir?
Le navire est à Marseille. Il va partir dès que possible, dès qu'il aura assuré son ravitaillement, les changements d'équipage, ravitaillement en nourriture, etc. Et nous allons repartir dès que possible en zone de sauvetage en Méditerranée centrale.
Toujours en Méditerranée centrale.
Oui, c'est là où il y a le plus, malheureusement, de drames.
Et toujours sans avoir l'assurance, effectivement, de pouvoir, une fois récupérés des migrants en Méditerranée, François Thomas, pouvoir les acheminer à bon port, dans un port sûr, comme vous voulez le faire régulièrement.
Nous avons toujours cet espoir que les États européens bougent et prennent les décisions normales qu'ils devraient prendre pour voir débarquer toutes ces personnes rescapées dans un lieu sûr.
Voilà. Vous semblez dire tout de même que la situation évolue légèrement. Vous semblez dire que le mois de septembre va être un mois décisif et que peut-être on va avoir de nouvelles décisions qui pourraient être prises, qui permettraient à des associations comme les vôtres, comme SOS Méditerranée, d'avoir, disons, plus de facilité à œuvrer en Méditerranée. En tout cas, c'est
bien
ce
sûr,
que vous espérez.
Oui, bien sûr, c'est un grand espoir. Pascal Brice, l'ancien directeur de l'OFRA, a dit que les ONG ont sauvé l'honneur de l'Europe en Méditerranée. J'espère que l'Europe va prendre enfin des décisions pour que nous puissions assurer ces sauvetages et que ce drame humain s'arrête. Mais maintenant, c'est vrai que ça devrait être l'Europe, l'opération Sophia, qui devrait continuer avec des moyens maritimes à notre place. Nous faisons ce travail parce qu'il n'y a personne. Voilà. Et c'est assez dramatique. Bien sûr, nous allons continuer. Et moi, j'ai espoir quand même que, parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut trouver un accord européen prévisible pour que toutes ces personnes soient débarquées rapidement.
On vous sent aussi déterminé, Ariane Masson, justement, et on sent même chez vous une assurance plus grande au fur et à mesure des missions que vous menez avec Sea-Watch, parce que vous avez l'impression que ça devient de plus en plus important, justement, que de vous engager dans votre mission de sauvetage en Méditerranée.
Ça reste, comme depuis le début, une évidence. On sait qu'il y a des gens qui meurent. Et ensuite, soit on trouve une solution, soit on les laisse mourir. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas d'entre-deux. On ne peut pas juste fermer les yeux. C'est le rôle des États, encore une fois, de faire du sauvetage en mer. Et ça, c'est, encore une fois, le rôle des États de trouver des solutions pour l'après. En tant que marins, nous formons un maillon de la chaîne où nous faisons du sauvetage, mais ce n'est pas non plus à nous de trouver des stratégies ou des politiques pour ensuite, pour l'après. C'est encore une fois le travail des États. La société civile se retrouve, que ce soit à terre ou en mer, à faire un travail qui ne devrait pas être le nôtre.
Oui, on sent en colère justement de cette mission qui vous incombe d'une certaine façon, une mission dont vous pensez qu'elle devrait être assurée par d'autres, et d'autant plus qu'on vous accuse justement de la mener, cette mission.
Mais c'est pas moi qui pense qu'elle devrait être menée par d'autres, c'est les lois internationales qui sont quand même assez claires là-dessus.
Guillaume Calafat, vous êtes non pas l'historien de service, mais celui qui nous permet justement d'apprendre de la distance par rapport à ces faits d'actualité. Ces notions dont on débat depuis le début de cette discussion autour du sauvetage en Méditerranée, en particulier cette notion de port sûr, vous la repérez déjà dans cette période du XVIIe, XVIIIe siècle qui est la vôtre, alors que vous travaillez justement sur cette Méditerranée centrale en particulier, cette question de la sécurité, de la sûreté que l'on doit assurer à ceux qui traversent la mer avec les dangers que cela comporte.
Oui, le pavillon avait cette fonction pour un certain nombre de marines qui étaient censées protéger les passagers qui décidaient d'embarquer sur ces navires. Il y avait des ports refuges, des ports plus hospitaliers que d'autres. Il faut dire que travaillant sur la Méditerranée de l'époque moderne, je travaille sur une Méditerranée qui est dans un état de guerre quasi permanent.
En particulier entre les Ottomans et les puissances chrétiennes.
Entre plusieurs provinces ottomanes, effectivement.
Et entre puissances chrétiennes.
Entre puissances chrétiennes. De ce point de vue, cet état de guerre fait que on peut facilement être capturé, captif, esclave, même, et que ces changements-là sont extrêmement rapides et brutaux. Ce qui apparaît à l'époque moderne, à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, c'est qu'un certain nombre de cas d'extrême nécessité, comme le naufrage, comme le danger de la mort en mer, commencent à être justement généralisés à un niveau d'abstraction qui est celui de l'humanité, des droits humains et de la protection des passagers.
Un petit mot, dites-nous un tout petit mot sur ces pèlerins qui partaient pour le Hadj depuis Alger et Tunis sur un bateau qui était piloté par un chrétien.
Oui, par un Français, enfin un Français du Luberon qui était en fait au service des Génois, c'était extrêmement compliqué, mais donc il transportait 165 pèlerins, donc inoffensifs, de Tunis et d'Alger, qui décidaient de se rendre à Alexandrie pour aller faire leur pèlerinage à la Mecque et Médine, et le navire s'échoue en Sicile, au niveau du Capo Pass.
Après avoir d'ailleurs tenté de s'échouer à Malte, mais les pèlerins disaient surtout ne descendons pas à Malte parce que nous serons mis en prison.
Ce n'était pas
en prison.
Du tout. Malte était presque la Libye pour eux, la Libye contemporaine, c'est-à-dire qu'ils auraient été mis en esclavage directement à Malte. Donc il y avait un petit espoir que la Sicile soit plus accueillante, ce qui n'est pas malheureusement survenu pour eux, puisque le duc de Savoie, qui était leur roi de Sicile, décide de les capturer. Cela dit, cette affaire, qui naît ensuite une affaire diplomatique, etc., commence à poser des questions extrêmement sensibles et contemporaines dans ces termes, c'est-à-dire l'hospitalité, l'humanité que l'on doit accorder à celui qui est en détresse et qui est inoffensif en l'occurrence. Un passager qui est un pèlerin, qui ne menace en rien la sûreté d'un État et qui simplement cherche à vivre.
Et cela, effectivement, je voulais vous voir conclure là-dessus. C'était effectivement au XVIIe et XVIIIe siècle, mais c'est surtout la naissance d'un véritable débat européen autour du sauvetage en mer, de ceux que l'on doit sauver, de ceux qui sont sans pouvoir d'une certaine façon et qui se trouvent ballottés par les flots. C'est un grand débat que vous avez analysé et que vous analysez dans vos propres travaux. Merci Guillaume Calafat d'être venu avec nous. On a compris que vous attendez l'un et l'autre non seulement le redémarrage de vos propres bateau, donc l'Ocean Viking et puis le Sea-Watch 3, Ariane Masson et François Thomas, mais des décisions rapides. Vous avez un terme qui vous paraît, disons, proche. C'est quoi? C'est début de ce mois de septembre, François Thomas?
Oh, nous aimerions que ce soit demain. Nous savons que ce qui est prévu, c'est au mois de début septembre, en effet, mais nous espérons que les prochains sauvetages, nous n'aurons pas à attendre aussi longtemps, 14 jours, comme nous l'avons eu à attendre il y a quelque peu.
Et puis pour vous, donc, on sait que vous repartez avec l'espoir de pouvoir repartir en Méditerranée, Ariane Masson, à partir du 20 septembre prochain. Merci à tous les trois d'être venus pour témoigner de cette question du sauvetage des migrants en Méditerranée. C'était le temps du débat. Merci à toute l'équipe de ce temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Bas, Hugo Boursier et Louise André. À la technique aujourd'hui, Laurie Vachon. À la vidéo, Jean-Guilain Meige. À la réalisation, Marie-Laure Ciboulet. À l'ordre du jour demain, à l'ordre du jour demain, faut-il mettre en place un droit d'ingérence, non pas humanitaire, on en parlait beaucoup, mais d'ingérence environnementale.